Avec François Desmazières, donc candidat au municipal à Arras, qu'on rencontre ici dans son local de campagne, rue des Balances. Vous étiez le premier en lice, hein, premier candidat pour ces municipales à Arras. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de jours du premier tour. Alors, quel regard vous portez sur cette campagne? On a le sentiment, en tout cas en tant qu'observateur, qu'on parle plus des stratégies politiques que finalement des réels enjeux sur Arras?
Oui, en tout cas, on a le sentiment qu'effectivement, c'est ce qui anime un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de médias aussi d'ailleurs. Bon, nous, on fait notre campagne, vous l'avez dit, on est les premiers depuis longtemps à être partis sur le fond, à être partis à la rencontre des Arageois, puisqu'on est en porte-à-porte depuis le mois de mai de l'année dernière. On a vu plus de 7000 personnes. On a lancé notre plateforme aussi à la même époque. On est aujourd'hui à 4000 visites sur la plateforme et plus de 1000 contributions. De commentaires ou d'avis directs. Et donc, on continue ce sillon qui est de permettre aux Arageois de s'emparer du sujet, qui est le sujet de l'élection municipale, c'est-à-dire la ville dans laquelle ils veulent vivre.
Votre pari, c'était de faire monter une sorte de mayonnaise avec des habitants. Est-ce que vous avez l'impression que cette mayonnaise, elle prend ?
Oui, déjà, les chiffres que je viens de vous donner en témoignent. Et puis au-delà, on a aussi, depuis la rentrée des Mardis citoyens dans cette permanence, on a voulu prendre une permanence de centre-ville, non pas pour afficher, mais pour accueillir. Et dans cette permanence, tous les mardis, de 18h à 20h, on débat sur des thèmes. On a démarré sur 20-30 personnes. On est aujourd'hui à 60-70 personnes à chaque mardi citoyen. Et surtout avec des gens qui viennent de tous les quartiers, qui viennent d'horizons différents. Et c'est la richesse de l'exercice qu'on est en train de mener.
On ne va pas parler que de ça, mais on est quand même obligé de parler aussi des stratégies politiques. Comment vous voyez la stratégie à gauche et puis aussi celle du maire sortant ?
Déjà, je vois pas de campagne, donc je ne sais pas quelle est la stratégie. Bah, si, on a bien compris que celle du maire, c'était celle de Sarkozy, c'est-à-dire feindre d'être aux commandes jusqu'à la fin et donc de ne pas rentrer en campagne pour ne pas s'abîmer, en ouvrant un site internet vide de toute proposition et en misant uniquement sur l'affichage de sa tête. Bon, je trouve que c'est un peu pauvre pour quelqu'un qui n'est jamais passé devant les électeurs. Et en tout cas, nous, on veut et on demande vraiment du débat parce que moi, j'attends encore de savoir quelle est sa vision de la ville. Nous, on l'a précisé, on a fait remonter des propositions, des priorités. Je veux qu'on puisse les confronter. C'est le moment ou jamais, et je lui redis, je l'ai déjà dit, ça n'est pas sale une campagne électorale, c'est un moment sain et vital pour la démocratie.
Et à gauche, la stratégie ?
Écoutez, quand elle sera définitivement arrêtée, je pourrai la commenter, mais à 52 jours du premier tour, je ne la connais toujours pas.
Alors on va parler de votre méthode, hein. On parlait de cette plateforme participative ou contributive. Comment ça marche exactement? Si moi, par exemple, j'ai envie de contribuer à ce débat, hein, admettons, j'ai envie de proposer la gestion publique de l'eau, je poste ça sur Internet, comment c'est pris en compte ensuite?
Alors, mécaniquement, c'est très simple. Il faut une adresse Internet, vous vous inscrivez et vous pouvez d'entrée... poster dans un enjeu. Alors c'est vrai que c'est pas un forum où on lance n'importe quelle idée. On a voulu que... on pense que pour que l'expression soit utile et qu'elle soit bien ciblée, il faut faire d'abord de la pédagogie. Donc on a ouvert des enjeux dans lesquels on situe le contexte. On met des sources, on met des idées, des premières idées, de telle sorte que les gens puissent d'abord s'emparer un peu du contexte et de cet enjeu, et ensuite contribuer. Sur l'enjeu dont vous parlez, par exemple, la gestion publique de l'eau, c'est quelque chose, effectivement, qui est sur lequel vous pouvez contribuer au travers ou de l'enjeu gestion de la ville ou de l'enjeu développement durable. Et donc, avec votre adresse Internet, vous inscrivez, vous postez votre commentaire. Le premier commentaire, il est mis en attente. Voilà, c'était le seul garde-fou qu'on avait mis par rapport à un risque de pollution. De fait, aujourd'hui, avec plus de 1000 avis, nous n'avons pas eu une fois à réguler et à modérer la plateforme. Je pense que quand on pose les bonnes questions et quand on fait la pédagogie sur les enjeux, les citoyens répondent au bon niveau et de la bonne façon, avec une volonté de contribuer.
Et comment c'est pris en compte ensuite alors ?
Alors ensuite, votre proposition, elle va s'intégrer derrière les autres propositions. Et le classement, il se fait automatiquement en fonction des votes sûr, puisque une fois que les avis sont postés, il y a possibilité pour les internautes de poster en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, et je suis favorable à cette proposition ou pas. Et donc le système reclasse automatiquement les avis. Donc celui qui a le meilleur pourcentage d'avis positifs et le plus grand nombre se situe en première réponse et ainsi de suite. Donc voilà, si votre proposition de gestion publique de l'eau reçoit un l'aval de beaucoup d'internautes, elle remontera dans les premières propositions.
Automatiquement ensuite, ça intègre votre programme ou est-ce qu'il y a quand même, après de l'échange, du débat, et puis finalement, il y a quand même une décision qui est prise par votre équipe, quoi.
Alors, il y a évidemment du débat derrière, et notamment au travers de ces mardis citoyens. Donc, certains sont des thèmes qu'on ouvre et où on permet d'exprimer les enjeux, et d'autres, et là on est dans cette phase-là, sont des thèmes qui ont déjà été abordés sur la plateforme et où la réunion du mardi citoyen sert de synthèse et permet ensuite de hiérarchiser définitivement nos propositions. Pour la gestion publique de l'eau, par exemple, à ce stade, dans la synthèse qu'on a faite, c'est de dire il faut ouvrir le débat. On ne tranche pas, on n'a pas eu d'avis, on dit qu'il faut ouvrir le débat. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde de souhaiter que le débat soit, en tout cas, de profiter du renouvellement de délégation de services publics pour le mettre sur la place publique devant les Arrajois.
En même temps, ouvrir le débat, ça n'engage pas à grand-chose.
Ça engage au moins à être sûr que la réponse ne soit pas connue d'avance. Si on repart tout de suite dans la DSP, il n'y a pas de débat. Bon. Et donc, nous, on pense qu'il faut mettre tous les éléments, et les éléments, ils sont techniques. Donc, il faut faire de la pédagogie aussi sur le coût, sur la maintenance. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire. Le renouvellement, il n'est pas pour tout de suite, donc on aura le temps de le faire, effectivement, le moment venu.
On parle de l'actualité de votre liste, ces derniers jours en tout cas. Il y avait deux rencontres, d'abord avec Anticor, donc une association anti-corruption, c'est ça ?
Oui, et pour la transparence de la gestion publique, oui, tout à fait. Donc, c'est une association nationale qui propose des bonnes pratiques pour la gestion des collectivités locales, qui a, dans ce cadre-là, édicté une charte, et charte que nous sommes la deuxième liste du Pas-de-Calais à avoir signée.
Alors, en quoi ça vous engage exactement ?
Alors, ça nous engage d'abord sur ce qu'on a signé, puisque je considère que la signature a une valeur. Et donc, on a signé des engagements sur les droits de l'opposition, sur la transparence des données financières, sur un certain nombre de bonnes pratiques de gouvernance. Et surtout, et c'est ce qui me semblait intéressant dans la charte Anticor, c'est qu'on s'engage à un droit de suite. C'est-à-dire qu'Anticor, si on est élu, viendra voir et se donne le droit, et on lui donne le droit de venir contrôler si ce qu'on a signé est mis en œuvre. Et donc ça a une vraie valeur, parce que effectivement, bon, signer des chartes et puis après s'asseoir dessus, c'est facile. Là, il y a un vrai engagement, et Anticor se donne les moyens de venir voir comment on fait, est-ce qu'on a respecté ces engagements.
Voilà. Pour l'attribution des marchés publics, il y a aussi des obligations dans cette charte, qui normalement est une obligation légale, c'est qu'il y ait des comités d'usagers, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Enfin, tout ce qui est marché public est évidemment dans la charte d'Anticor, d'ailleurs, comme dans celle de Nous Citoyens. Le minimum, c'est de respecter la loi, mais il y a des engagements très forts de transparence, même sur celle de Nous Citoyens, d'accompagnement, de spécialistes pour mettre à disposition du public un certain nombre de données et les clarifier, parce que parfois on s'abrite derrière la technicité des débats pour pas permettre aux citoyens d'y prendre part. Donc il y a ces engagements-là d'ouvrir tous les débats publics et donc ceux qui prêtent à marché public de manière complètement transparente.
Justement, vous en parliez, nous citoyens, autre rencontre que vous avez faite, autre label, on peut dire ça comme ça, nous citoyens, Denis Père, un mot sur ce mouvement politique ?
Oui, alors il s'affirme comme un mouvement politique qui vient de naître, qui croît rapidement, qui est reprend la même code ADN que nous, c'est-à-dire sans esprit partisan, en considérant qu'il n'y a pas des idées de gauche et des idées de droite, mais qu'il y a des bonnes et des mauvaises idées. Et c'est ce qu'on affirme en disant quand on plaide pour une mobilité de plus douce et plus respectueuse dans l'environnement, quand on plaide pour la démocratie participative, on nous dit mais finalement vous êtes une liste de gauche déguisée. Et puis quand on plaide pour la baisse des dépenses de fonctionnement ou pour la baisse des impôts, on dit oui, finalement vous êtes resté un mec de droite, quoi. Et donc nous on dit il y a des bonnes idées qui sont peut-être d'origine de gauche ou d'origine de droite, mais qui sont avant tout utiles aux Arrajois. Et de la même façon, donc, le mouvement Nous Citoyens se construit de cette façon-là au niveau national. Il se construit aussi comme nous au travers d'une plateforme collaborative. Donc on avait un certain nombre de points communs. Ils ont aussi édicté une charte en nous disant, ben, voilà, bon, si vous signez la charte, il y a une labellisation du mouvement. Cette charte, elle demande par exemple qu'il y ait 60% des colistiers qui n'aient jamais eu de mandat. En réalité, on sera à 90% dans notre liste qu'on dévoile samedi. Donc voilà, on est en phase avec ce label des municipales. Donc on l'a accepté parce que aussi il y a une attitude, enfin voilà, il y a une démarche qui est courageuse. Denis Père, qui est le président fondateur de Nous Citoyens, il est sorti de la tranchée et il en a pris plein la pipe, comme nous d'ailleurs. Et puis il y a une démarche qui est extrêmement sincère sur la volonté de faire bouger les lignes. Et surtout qu'il y ait des débats. Enfin, je crois que Denis Père le dit régulièrement, on a eu une présidentielle de 2012 pour rien, où on n'a abordé aucun des grands sujets, que ce soit la dette, que ce soit l'éducation. On a parlé de viande halal et de coût du permis de conduire. Ce sont peut-être des sujets importants, mais enfin pas essentiels. Et donc, de la même façon, au plan municipal, on veut qu'il n'y ait pas une municipale pour rien et qu'il y ait un vrai débat.
Alors quand même, quand on lit un petit peu les écrits de Denis Père, on a quand même le sentiment que c'est quelqu'un d'assez libéral. Hein. Les médias, la presse écrite nationale le définit même comme le nouveau Alain Madelin. Ça fait quand même un peu peur, non?
Oui, et puis comme les médias locaux me présentent comme le revanchard de l'UMP, donc si vous voulez, il faut essayer de dépasser les clichés. C'est quelqu'un qui, effectivement, est un chef d'entreprise, qui a créé 7000 emplois. Donc si ça suffit à être résumé comme libéral, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de libéraux en France. Pour le reste, il nous a tenu ici un discours sur la solidarité, sur l'éducation, qui, à mon sens, ne le permettent pas de le classer comme c'est fait, de manière un peu rapide et un peu réductrice. Mais vous savez, on vit la même chose. J'ai entendu Marco Verriez dans votre émission, où on a été expédié en une phrase pour expliquer qu'on était un mouvement revanchard. Voilà, moi, ce n'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain. Et vous croyez, sincèrement, les 7000 personnes que nous avons rencontrées, ils ne se posent pas la question de savoir si j'ai une revanche à prendre avec Frédéric Le Turc. Ils écoutent ce qu'on dit.
Alors François Desmazières, vous l'avez dit, ce samedi vous allez dévoiler votre liste, donc les 43 noms.
C'est samedi, et vous êtes naturellement les bienvenus.
Alors, dans votre document de campagne, il y a 11 priorités hein, à différencier. Donc, si j'ai bien compris, sur la plateforme, sur Internet, il y a 12 enjeux, mais ensuite, il y a une synthèse qui est faite et qui est reprise en 11 priorités. Alors, on ne va pas parler des 11 priorités parce que ça sera un petit peu long, peut-être. Les gens aussi pourront prendre connaissance du document. Mais quand même, le premier, mieux gérer l'argent public. Dans un contexte où donc la contribution de l'État aux collectivités territoriales et aux communes devient plus faible, là il y a des choix à faire. Alors comment dépenser moins, mais avec une ambition toujours haute pour la ville ?
On peut dépenser moins, on peut surtout dépenser mieux. Voilà, vous avez raison de préciser le contexte national qui sera un contexte de réduction des concours de l'État. Vous pourriez aussi préciser le contexte local, par exemple de la hausse des dépenses des frais de réception à la mairie, qui sont passés de 210 000 euros à 590 000 euros l'année dernière. Est-ce que vraiment en cette période ça se justifie? Alors on pourra me dire Versailles, on peut trouver tous les arguments qu'on veut. Je rappelle que ça représente 2 points de fiscalité. On aurait pu baisser les impôts ou on aurait pu redéployer ces 400 000 euros sur d'autres dépenses. Donc je pense qu'il y a à repeigner et à regarder toutes les dépenses par dépenses, pour les rendre plus efficaces, les rendre aussi plus productives de création de richesses pour la ville. Voilà, donc c'est faisable. Et on présentera d'ailleurs fin février notre vision financière sur 2015, 2016, 2017 par rapport aux projets et aux priorités qu'on a présentées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'afficher des priorités, on dira comment on les finance et dans quel calendrier.
Que vous direz aussi sur quoi vous économisez, sur là où vous ne mettrez pas l'argent finalement, à part les dépenses, ces dépenses-là
À part, mais c'est déjà beaucoup, ouais. Mais je viens de vous donner un exemple, il y en a d'autres. On a rencontré beaucoup d'Arrajois dans le porte-à-porte qui nous disent: est-ce que c'est bien justifié d'avoir 3 feux d'artifice rien que sur l'été à Arras? Est-ce que cette politique finalement qui consiste à faire des choses qui plaisent à tout le monde, qui est un peu clientéliste. Alors on peut imaginer quel est le rendement électoral, mais quel est l'intérêt pour les Arrageois. Voilà, donc on fera ce travail-là, dépense par dépense. Moi, je vous en ai identifié quelques-unes, on le fera dépense par dépense.
Point 2, inviter la ville à Milton. Alors, en tout cas, avec PFM, on s'interrogeait pas mal sur ce concept de ville à Milton. Ça sonne assez poétique, assez novateur, mais de quoi parle-t-on exactement ?
Alors on parle de plusieurs choses, effectivement, l'intitulé, il est à la fois large et peut-être il fait un peu rêver. Bon, c'est aussi un moment où on doit donner envie, une campagne électorale, et où on doit donner une vision de l'avenir. Alors d'abord, ça existe à Poitiers, par exemple, une agence des temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour une mère de famille qui travaille, d'abord, ça va vouloir dire redéfinir et concerter l'ensemble des créneaux de la réforme des rythmes scolaires qui a mis une pagaille dans la vie de nombreuses familles à Arras. Mais bon, au-delà de ça, bien souvent, la mère de famille, elle va avoir, ou le père de famille d'ailleurs, s'il fait les démarches administratives, peut-être un jour un besoin d'un créneau entre 18h et 20h pour telle ou telle démarche administrative. Et bien, il faut qu'on puisse étudier ces modulations. Et puis un dimanche en hiver, vous pouvez aussi avoir envie d'aller avec vos enfants à la médiathèque. Il faut qu'on puisse regarder, sur la base du volontariat du personnel, dans quelle mesure on peut offrir ce type de service, effectivement, dans l'année. Mais ça touche aussi, on a dans nos mardis citoyens des gens qui viennent d'Arras Ouest et qui sont obligés de repartir avant la fin parce qu'ils ne trouvent plus de bus pour rentrer le soir. Voilà, c'est tout bête, mais on peut aussi jongler sur... Alors c'est vrai en semaine, c'est a fortiori encore plus vrai sur les fins de semaine pour des gens qui voudraient profiter du centre-ville, de permettre ces facilités. Et je pourrais déployer sur les horaires des piscines, pourquoi pas avoir quelques ouvertures nocturnes des salles de sport, etc. Et puis il y a un point dans cet intitulé qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'harmonisation des temps de la démocratie. Aujourd'hui, quand vous êtes parent, c'est extrêmement difficile d'avoir des réunions qui se terminent à 22h, à 23h. C'est a fortiori, c'est injuste, mais c'est malheureusement comme ça plus difficile pour les femmes, parce qu'il y a le problème de garde qui va se poser, parce que le mari, il est peut-être moins disponible sur le boulot, etc. Et du coup, on condamne la possibilité pour certaines personnes de participer à la démocratie. Alors tout notre enjeu et tout notre combat, c'est de faire en sorte que tous les Arrageois puissent s'investir dans la vie démocratique. Et donc, par exemple, on a dit, il faut qu'on puisse interdire. Alors c'est vrai pour ceux qui seront élus, mais c'est vrai aussi pour les fonctionnaires municipaux qui sont mobilisés parfois toute la semaine à des horaires compliqués. Et donc d'interdire des réunions après 19h, ça se fait dans les démocraties nordiques et j'ai pas l'impression qu'elles marchent moins bien que la nôtre. Et donc il faut qu'on engage une réflexion là-dessus. Et puis si on peut pas tout interdire, c'est aussi, on l'a fait à notre échelle dans cette permanence, permettre qu'on vienne à des réunions. Alors, peut-être pas le conseil municipal qui garde un petit côté sacralisé, mais en commission, qu'on puisse venir avec ses enfants, qu'on puisse avoir un petit coin garderie pendant la réunion. Bref, qu'on facilite aussi dans la gestion des temps la participation à la vie démocratique. Je parle des élus, je parle des fonctionnaires territoriaux, mais ça peut être le cas pour des commissions, pour des débats. Si on veut que les Arrageois, que les citoyens en général s'investissent dans la vie démocratique, il faut aussi pas leur mettre une somme de handicaps qui font que jamais ils n'y vont et que ce sont toujours les mêmes qui participent.
François Desmazières, les prochains rendez-vous, donc samedi, la liste. Et ensuite, à nouveau, les mardis citoyens, quelques thèmes des rencontres à venir.
Alors, effectivement, il reste 3 mardis citoyens, puisqu'on va arrêter au 18 février les débats pour avoir le temps de faire la synthèse avant le 23 mars. Donc, les 3 prochains, c'est ce qu'on appelle la ville nouvelle, c'est-à-dire tous les enjeux de développement durable. Et vous avez signalé que le premier sujet sur la plateforme, c'était la mobilité. Alors, on a déjà fait un mardi sur la mobilité. Mais forcément, on reviendra un peu sur tous ces enjeux qui sont imbriqués. Le suivant, c'est sur la culture. Et donc, je sais que vous êtes une radio très suivie par les milieux culturels. Donc, je lance un appel à venir participer à ce débat le mardi 11 février à 18h, donc sur la culture. Je pense qu'il est sain que ce sujet soit abordé et pas seulement dans des commissions institutionnelles dans le cadre de grandes réceptions au musée. Et puis, le dernier, ça sera... pour synthétiser, un débat sur la gouvernance, c'est-à-dire comment on imagine gérer la ville demain, parce qu'on a, voyez-vous, l'audace de penser qu'on sera en mesure de la gérer.
François Desmazières, candidat au municipal à Arras avec son mouvement Les Citoyens s'engagent. Interviewé hier après-midi dans son local, rue des Balances, au centre d'Arras. Le site internet de sa campagne participative, c'est www.lescitoyenssengagent.org. A noter que, comme ça a été évoqué brièvement dans l'interview, le sujet qui a récolté le plus de contributions sur ce site, c'est celui de la mobilité. Le transport, le bus, les vélos, tout ça, tout ça. Environ 150 appréciations sur ce sujet. Les autres candidats au municipal à Arras, le maire sortant Frédéric Le Turc, on commence à voir quelques-unes de ses affiches en ville. Sa liste, c'est Arras au cœur. Le site internet www.leturc2014.fr. À gauche, la verte Hélène Flautre pour une liste d'union de la gauche Arras 2020. Là aussi, il y a un site internet Arras 2020. C'est toujours le feuilleton arrageois de l'hiver. Normalement, la section PS d'Arras devait hier, en réunion hier soir, se décider une bonne fois pour toutes. Pour le Front National, Alban Euzel, je passe. À la gauche de la gauche, pour le Parti communiste, René Chevalier. On devrait l'interviewer la semaine prochaine pour Radio PFM. Et puis, autour du parti de gauche cette fois-ci, un appel a été lancé pour former une liste à Arras, l'appel des 43, donc affaire à suivre. Retrouvez tout ce qu'on fait concernant les municipales, les interviews, les reportages sur notre site internet www.radiopfm.com, rubrique reportage, sous rubrique municipale 2014. I'd like to democracy, have a democracy, democracy.